Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 26 avril 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Aux États-Unis, plusieurs campus s'embrasent. Des étudiants réclament la fin du génocide israélien dans la bande de Gaza. C'est le titre de notre commentaire d'aujourd'hui. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'Iran et l'Afrique donnent de l'essor à leur coopération économique. L'Iran appelle l'ONU à briser le mutisme face aux crimes israéliens. Et puis Sciences Po, bloqué par les étudiants pro-Palestine à Paris. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Lors de la deuxième conférence économique internationale Iran-Afrique, organisée vendredi 26 avril à Téhéran, le président iranien Ibrahim Raisi a déclaré que la République islamique et les pays africains souhaitent renforcer davantage leurs relations économiques. Il a appelé à l'élaboration d'un plan détaillé sur la manière de renforcer les relations économiques avec tous les pays d'Afrique. Le président iranien a souligné la nécessité d'étudier la capacité des pays africains et de la République islamique en vue d'optimiser les opportunités économiques. La République islamique a fait des progrès considérables malgré les sanctions imposées par l'Occident, s'est-il félicité. En allusion à l'approche contre-productive de l'Occident sur les atouts des pays africains, Raisi a souligné que l'Iran continue d'avoir une position différente à l'égard de l'Afrique. L'Iran exhorte le Conseil de sécurité à répondre aux atrocités israéliennes belligérantes à Gaza. L'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a dénoncé les activités déstabilisatrices d'Israël en Asie de l'Ouest, exhortant le Conseil de sécurité de l'ONU à tenir le régime israélien pour responsable de ces atrocités à Gaza et ailleurs. Les actions et atrocités déstabilisatrices et irresponsables d'Israël contre les nations de la région constituent une menace réelle pour la paix et la sécurité régionale et internationale, a déclaré Amir Saïd Iravani lors d'un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU le jeudi 25 avril. Il a souligné que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou cherche à étendre et à intensifier le conflit dans la région pour rester au pouvoir, affirmant que les membres du Conseil de sécurité ne doivent pas permettre que l'organe soit l'otage des ambitions d'un tel régime belligérant. Le moment est venu pour le Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités et de se concentrer sur la menace réelle qui pèse sur la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité doit remplir rapidement son mandat en vertu du chapitre 7 de la Charte de l'ONU en réponse aux défis responsables d'Israël, martèle le haut diplomate iranien. Le mouvement de résistance islamique au Liban, Hezbollah, a utilisé diverses armes, notamment des drones d'attaque unidirectionnels jeudi pour frapper les militaires et les points d'artillerie du régime israélien. Des combattants du Hezbollah ont tiré des roquettes à 15h20 heure locale sur le déploiement des forces d'occupation israéliennes à proximité du site militaire d'Al-Daraya, dans le secteur ouest de la frontière sud. Au cours de cette opération, des roquettes inconnues ont été utilisées et ils ont touché directement leur cible. Les forces armées du Yémen ont réussi à cibler un navire israélien dans le golfe d'Aden, ainsi que le port d'Ilat dans la partie sud des territoires occupés dans le cadre de nouvelles opérations pro-palestiniennes. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a annoncé jeudi les opérations dans un message vidéo. Selon le responsable militaire, le navire israélien a été frappé avec un certain nombre de missiles appropriés et plusieurs drones, atteignant avec succès la cible considérée. Le général de brigade Sari a souligné que les forces yéménites avaient également tiré plusieurs missiles balistiques et de croisière sur un certain nombre de cibles israéliennes à Eilat. Selon Sari, les forces armées yéménites continueront leur soutien au peuple palestinien en empêchant la circulation des navires liés au régime israélien dans la mer Rouge, la mer d'Oman et l'océan Indien. Enfin, une cinquantaine d'étudiants ont campé à l'intérieur de Sciences Po à Paris dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 avril en soutien aux Palestiniens et ils ont été rejoints ce vendredi matin par d'autres étudiants. Dans le sillage des actions de protestation menées dans des universités américaines, près d'une cinquantaine d'étudiants français mobilisés en soutien au peuple de Gaza ont décidé d'occuper un nouveau bâtiment de la grande École française de sciences politiques, appelée communément Sciences Po, à Paris, le jeudi 25 avril au soir, au lendemain d'une évacuation par la police d'un autre site de l'établissement. Les manifestations pro-palestiniennes prennent également de l'ampleur dans les universités américaines, parlées par les arrestations, l'usage du gaz lacrymogène et les interpellations. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Plusieurs campus s'embrasent, des étudiants réclament la fin du génocide israélien à Gaza aux États-Unis. L'attaque de la police américaine contre un rassemblement d'étudiants qui campaient sur le campus d'une université de New York pour protester contre le soutien américain au régime sioniste dans la guerre de Gaza, en plus de l'arrestation d'au moins 140 étudiants, a provoqué une explosion des protestations. Les manifestations estudiantines contre la guerre se sont intensifiées dans les universités américaines. Les protestataires exigent que leur établissement d'enseignement supérieur condamne la guerre d'Israël contre la bande de Gaza assiégée et se sépare des entreprises israéliennes en réponse à cette guerre. Parallèlement à ce mouvement de contestation, la cérémonie annuelle de remise des prix du PEN, une association mondiale d'écrivains, a été annulée en soutien au peuple palestinien. La police américaine a attaqué jeudi dernier le camp de protestation des étudiants de l'Université Columbia à New York et a tenté de mettre fin au sit-in en arrêtant 100 étudiants qui campaient sur le campus de cette université. Les étudiants exigent le gouvernement Biden soutiennent le cessez-le-feu à Gaza et ont appelé le Congrès à cesser d'envoyer des aides militaires au régime sioniste. La décision prise la semaine dernière par la présidente de l'Université de Columbia, Minou Shafik, de faire appel à la police de New York pour arrêter des dizaines de manifestants a largement servi de catalyseur au mouvement de protestation dans son ensemble. Les professeurs de l'Université de Columbia font grève et réclament la démission de sa présidente. Minouche Shafik, présidente de l'Université de Columbia, a annoncé dans un communiqué publié lundi 22 avril que les cours de l'université se tiendraient en distanciel pour réduire les tensions. Selon CNN, ces décisions montrent la situation tendue qui règne à l'université et le grand défi de Shafik de contrôler la situation. Les manifestants ont exigé la démission de la présidente de l'Université de Columbia. Les professeurs de l'Université de Columbia se sont également mis en grève en solidarité avec les étudiants arrêtés pour avoir soutenu la Palestine. Des dizaines d'étudiants ont continué à manifester sur le campus, y installant notamment des tentes pour ne pas faire déloger. Ils réclament entre autres que l'université, qui a un programme d'échange avec Tel Aviv, boycotte toute activité en lien avec Israël. Même si le raid nocturne de la police et l'organisation à distanciel des cours à l'Université de Columbia ont eu lieu dans l'espoir d'un retour au calme, l'extension des protestations à d'autres universités a pris de court les dirigeants américains. Plusieurs campus américains se sont embrasés ces derniers jours en raison du conflit des étudiants organisant des manifestations et des sit-ins pour réclamer la fin de la guerre menée par Israël à Gaza en proie à un désastre humanitaire. Lundi 22 avril, des dizaines de tentes ont été plantées sur la grande esplanade de l'Université Columbia à New York, occupée par les manifestants. Idem, ma prestigieuse université new-yorkaise, sur les campus de Cambridge, dans le Massachusetts et Berkeley, en Californie ou encore à Harvard. Sur le campus de l'université Yale, au nord de New York, des centaines d'étudiants ont agité drapeaux et pancartes pro-palestiniens. Selon la police de l'État de Connecticut, où se trouve l'université de Yale, 47 personnes ont été arrêtées. Les manifestants de l'Université de Yale, dans le Connecticut, ont choisi de dormir à la Belle Étoile afin d'échapper aux menaces de l'administration de les faire arrêter s'ils tentaient à nouveau d'installer des tentes, après qu'un premier campement de tentes a été évacué lundi, avec l'intervention musclée de la police et des dizaines d'interpellations. Auparavant, les étudiants de l'Université de Yale avaient entamé une grève de la faim de 7 jours en soutien aux Palestiniens. D'autres campements ont été érigés à la suite des événements de la semaine dernière au Swarthmore College et à l'Université de Pittsburgh en Pennsylvanie, à l'Université de Rochester à New York, au Massachusetts Institute of Technology, à l'Université Tufts et à l'Emerson College dans le Massachusetts ainsi qu'à l'Université du Michigan à Ann Arbor. Depuis jeudi dernier et ses arrestations, les tensions n'ont cessé de s'accentuer d'abord à Columbia et puis sur de nombreux campus dans le pays. Les manifestants pro-palestiniens se disent déterminés, malgré la forte présence policière, à se battre pour leur liberté d'expression face à la droite qui les accuse d'antisémitisme. Les manifestants rejettent l'accusation d'antisémitisme. La protestation des étudiants contre la politique américaine consistant à soutenir le massacre de la population de Gaza par le régime sioniste a suscité diverses réactions. Les partisans du régime sioniste tentent de qualifier ces manifestations d'antisémites et de leur donner une couleur raciale. Le président américain Joe Biden a affirmé dimanche que l'antisémitisme n'a pas sa place sur les campus. Cet antisémitisme flagrant est répréhensible et dangereux, et il n'a absolument pas sa place sur les campus universitaires, ni nulle part dans notre pays, a-t-il lancé, tout en dénonçant ceux qui ne comprennent pas ce que vivent les Palestiniens. Suite à ces déclarations, Robert Kraft, le milliardaire américain et fondateur de l'Institut Lutte contre l'antisémitisme, a annoncé qu'il ne ferait plus de dons à l'Université de Columbia. Selon le journal américain Hill, une partie importante des étudiants protestataires sont juifs et aucun cas de violence n'a été signalé lors des manifestations. Annulation du prix annuel de l'association PEN America. L'extension des réactions en dehors de l'espace universitaire américain indique cependant que Washington n'a pas réussi à convaincre l'opinion publique et à rallier ses citoyens à ses politiques en soutien à Tel Aviv. Dans le contexte de manifestations grandissantes en soutien à Gaza, la cérémonie de remise des prix de l'association PEN America a été annulée dans la foulée d'un appel au boycott des écrivains. Ces derniers mois, PEN America a reçu de nombreuses critiques parce qu'elle était perçue comme ne prenant pas une position ferme en faveur des écrivains palestiniens. Plus d'un millier d'écrivains ont signé une lettre ouverte, disant notamment « Nous exigeons que PEN America publie une déclaration officielle sur les 225 poètes, dramaturges, journalistes, universitaires et romanciers tués à Gaza et nomme leur meurtrier, Israël, un État colonial sioniste financé par le gouvernement américain. » Suite à cela, environ la moitié des écrivains nominés pour les prix PEN américains se sont retirés, y compris 9 des 10 nominés pour le PEN Jean Stein Book Award, doté d'un prix de 75 000 $. Après le retrait de nombreux écrivains, PEN américains a annoncé qu'il avait annulé la cérémonie de remise des prix 2024, une semaine seulement avant la date prévue de sa tenue le 29 avril à l'hôtel de ville de New York. La protestation d'une partie de la communauté scientifique, universitaire et culturelle américaine qui a eu lieu après la tenue d'élections préliminaires dans certains États de ce pays témoigne de l'opinion négative et des votes de protestation d'un nombre important de citoyens américains. Même si certains médias analysaient auparavant que les votes de protestation étaient spécifiques aux Américains musulmans ou arabes, l'extension des protestations véhicule un message différent, à savoir que la Maison-Blanche a porté un regard trop optimiste sur l'alignement de ses citoyens sur son soutien à la guerre et au massacre de la population de Gaza, et qu'il est fort possible que cette politique devienne le talon d'Achille de Joe Biden lors des prochaines élections. En effet, ce qui a attisé la protestation des Américains contre l'administration Biden, c'est l'approbation par le Congrès d'une aide de 26 milliards de dollars au régime sioniste qui a coïncidé avec la publication d'images et d'informations choquantes sur la découverte de fosses communes dans l'enceinte de l'hôpital Nasser à Khan Younes. Selon Associated Press, le mois dernier, alors que les forces israéliennes assiégeaient ce complexe médical, elles ont creusé des fosses communes pour enterrer les corps des centaines de Palestiniens exécutés sommairement. La défense civile de Gaza a affirmé avoir exhumé ces derniers jours 340 corps de personnes tuées et enterrées par les forces israéliennes dans des fosses communes, notamment à l'intérieur de l'hôpital Nasser de Khan Younes. L'ONU réclame l'ouverture d'une enquête internationale pour faire la lumière sur les faits.
Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Alors en effet, en février dernier, les forces israéliennes, l'armée israélienne a attaqué l'hôpital Nasser situé à Khan Younes, la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza et tué des dizaines de personnes. Mais récemment, ce 20 avril 2024, il y a 2-3 jours de cela, les équipes palestiniennes de la défense civile ont découvert une fosse commune dans cet hôpital. Donc un crime de plus, un crime contre l'humanité. Mais toujours, le silence des instances internationales face à ces crimes perpétrés contre le peuple palestinien, non seulement depuis quelques mois, mais depuis des années. Nous allons évoquer ce nouveau crime perpétré et dévoilé avec nos deux invités. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet et on revient tout de suite après.
Les équipes palestiniennes de la défense civile ont découvert une fosse commune à l'hôpital Nasser de Khan Younes 2 semaines après le retrait des forces israéliennes de la ville située dans le sud de la bande de Gaza. Dans un communiqué publié le samedi 20 avril, l'Agence de défense civile de Gaza a déclaré que les corps de 50 Palestiniens tués par les forces d'occupation israéliennes avaient été retrouvés dans un charnier. Nos équipes poursuivent leurs opérations de fouilles et de récupération des corps de martyrs restants dans les prochains jours, car ils sont encore un nombre important, ajoute le communiqué. Les forces israéliennes ont attaqué l'hôpital Nasser et tué des dizaines de personnes qui s'étaient réfugiées dans le complexe médical en février après des jours de bombardements intenses. Ils ont attaqué Khan Younes, la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza, début décembre, obligeant les habitants à fuir leurs maisons. Le 7 avril, l'armée israélienne a annoncé avoir retiré ses forces terrestres de Khan Younes. Depuis lors, les Palestiniens déplacés rentrent chez eux après des mois d'attaques israéliennes qui ont laissé une grande partie de la ville en ruine. Israël a lancé une guerre génocidaire contre Gaza, assiégée le 7 octobre, après que le groupe de résistance palestinien Hamas a mené une opération inédite contre l'entité occupante en représailles aux atrocités intensifiées du régime contre le peuple palestinien. Le régime de Tel Aviv a jusqu'à présent tué au moins 34 049 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, il y en a blessé 76 900 à autres.
Voilà, nous avons vu et entendu le reportage. Plus de 34 000 Palestiniens tués. Alors, c'est quand même un crime peut-être sans précédent. Nous allons évoquer ce sujet, ces attaques contre les camps de réfugiés, les attaques contre les hôpitaux, contre les maisons, contre les civils, les femmes et les enfants. Nous avons deux invités que je suis très ravie de retrouver. Il s'agit d'Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales, qui est avec nous depuis Damas. Également Bernard Cornu, politologue, écrivain et analyste des questions du Moyen-Orient. Je vous dis bonjour, chers invités. Merci d'être avec nous pour cette émission. Madame Midani, si vous voulez bien, on commence avec vous. En ce qui concerne cette nouvelle révélation, de ce crime perpétré contre l'hôpital de Nasser à Khan Younes. Dans un premier temps, quel est votre avis général sur ce qui vient de se passer, Madame Midani?
Bonjour à vous. Et puis, je voudrais commencer par saluer quand même la lutte du peuple palestinien, saluer sa résistance héroïque, hein, et sans précédent face à des exactions aussi sans précédent, pleines de sadisme et d'horreur, hein, et que cela continue depuis le 7 octobre, le 8 octobre, donc depuis pratiquement 7 mois, et le peuple palestinien et sa résistance tiennent bon. Il continue à s'aimer des coups douloureux aux Israéliens. C'est ça qui les a obligés à se retirer de Khan Younes. C'est les a obligés à se retirer du nord, de Gaza. Et en fait, de plus, ils continuent, les Israéliens continuent donc pour cela aussi d'accentuer leurs crimes génocidaires. Mais accentuer l'horreur de leur crime dans l'espoir de transformer Gaza en exemple à ne pas suivre pour l'ensemble de la population.
Oui.
Alors, bien sûr, ces horreurs, elles ont été faites dès les premiers jours. On se rappelle aussi l'hôpital Ashifa qui est devenu pratiquement comme une citadelle. Il a été entouré, encerclé par les chars, isolé du monde, et ils se sont après abattus sur l'hôpital. Ils l'ont transformé en centre d'inquisition, de répression et interrogatoire. Toute l'équipe de l'hôpital a été aussi torturée, comme les blessés, les enfants, les réfugiés, parce que ça a été fait en deux temps. Donc c'est vraiment, ils excellent dans l'horreur, je dirais. Et là, aujourd'hui, on retrouve dans l'hôpital aussi Nasser à Khan Younes, d'où ils se sont retirés, les Israéliens se sont retirés depuis 3 jours, sous les, effectivement en fuyant les coups répétés et glorieux de la résistance palestinienne. Là, on découvre les charniers, on découvre des personnes qui sont mortes, torturées, avec les mains nouées derrière le dos, avec tout un tas d'horreurs. Et puis, il faut dire, les hôpitaux sont toujours aussi le lieu de refuge des exilés. Les gens viennent non seulement chercher l'aide médicale, mais aussi par les bombardements, ils cherchent l'asile. Il faut reconnaître, il faut dire aussi que les Israéliens avaient déclaré ces zones du sud comme étant des zones de sécurité, en fait, donc où les réfugiés peuvent aller, et qu'on ne les bombardera pas, on ne les touchera pas, et donc des zones humanitaires et sécuritaires. Ils n'ont pas arrêté de les bombarder, de violer ces entités, violer l'hôpital, violer les blessés, les enfants, les exilés, etc. Donc en fait, ça c'est quelque chose de très important à signaler, et je dirais quand même le fait de trouver aujourd'hui un charnier collectif à l'intérieur de l'hôpital ne nous étonne plus, vu tous les crimes qu'on a vus depuis le début, et n'étonne plus les Palestiniens. Ce qui est étonnant aussi, c'est le silence assourdissant de tous ces pays qui se prétendent défenseurs des libertés humaines, défenseurs des femmes, défenseurs des enfants, défenseurs de la liberté de parole. D'ailleurs, là-dessus, je voudrais signaler que dans ces pays maintenant, rien que de dire on soutient la résistance palestinienne, ça devient un crime, un délit d'apologie du terrorisme. C'est le cas en France, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Allemagne. Et c'est quelque chose d'absolument terrifiant, où la manière dont ces pays couvrent leurs crimes et couvrent les crimes israéliens, en fait, sans aucun scrupule, et au vu et en défiant toutes les lois, toutes les règles internationales, à la fois des droits de l'homme et de la guerre. Car l'hôpital est en loi de guerre, et pour les pays qui se font la guerre, je ne voudrais pas appeler ça une guerre, mais normalement, les hôpitaux sont quand même respectés et doivent être un lieu sûr. Exactement. Et un lieu inattaquable. Alors que là, c'est comme les lieux de culte, d'ailleurs, et c'est quelque chose d'absolument sacré qui doit être protégé, et où la population va se protéger à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment, ils font fi de toutes les règles, je dirais, même des conflits dans l'humanité, et qui sont tenus, et la charte de l'ONU, etc. Et malgré le fait que la Cour internationale de justice a donné aussi un certain nombre d'injonctions dans son rapport de fin décembre, où Israël s'assoit sur tout ça, malgré aussi le vote du Conseil de sécurité, de tous les membres du Conseil de sécurité, exigeant un arrêt immédiat de l'agression, en fait, contre Gaza, et le retrait immédiat, eh bien, le veto américain l'abstention américaine a fait que Israël continue dans ses crimes de plus belle et continue donc à s'aimer la terreur, je dirais, à semer la terreur dans toute la Palestine, hein, d'ailleurs plus à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Je voudrais quand même dire et rappeler aussi que Tolkarem a été envahi, que Jenin a été envahi, que Nablus a été envahi. Et c'est pareil, les lieux privilégiés de leur invasion, c'est l'hôpital, c'est les habitations civiles, etc. C'est en fait quelque chose d'absolument affolant. Et ce qui est plus affolant, c'est le silence et l'aveuglement des pays occidentaux et de ces et puis la sclérose, je dirais, ou l'incapacité des instances des Nations Unies à faire appliquer même la charte et la loi internationale, la charte des Nations Unies et la loi internationale.
Merci infiniment pour vos détails, votre analyse, Madame Idani. Restez en ligne. Monsieur Cornu, vous avez entendu l'analyse et le point de vue de Madame Idani, comme l'a très bien expliqué Madame Idani. Alors, ces crimes perpétrés, mais le point, c'est les crimes et les attaques perpétrées contre un hôpital, un lieu qui est censé être sécurisé, qui est censé être sûr partout dans le monde. Les lois internationaux, tout ce que vous voulez, disent qu'un hôpital est un lieu sûr et sécurisé. Comment ça se fait qu'il y a des attaques contre ce genre de lieu, mais après il y a la révélation des fosses communes, mais après il y a toujours le silence des instances internationales qui ne font que regarder ou peut-être juste publier un communiqué pour condamner ce genre d'attaque. Comment pourrait-on expliquer cette situation, Monsieur Cornu?
Disons, on est sans doute au bout, à l'extrémité d'un processus colonial qui s'étend depuis longtemps en Cisjordanie. Et comme l'a dit récemment un professeur palestinien, d'ailleurs de Columbia, le professeur Joseph Massad, dans un article sur Middle East Aid, il dit que dans toutes les fins des processus coloniaux, il y a une accélération, une aggravation des massacres, parce que la puissance coloniale est affolée par la résistance populaire et les massacres s'aggravent. C'est une comparaison par rapport à ce qui s'est passé au Kenya, ce qui s'est passé en Algérie avec la France, au Kenya donc avec les Britanniques, en Inde aussi. Et donc, c'est un processus extrême et il est difficile même aux Israéliens de gauche, et les quelques rares qui s'occupent de protester contre les agissements du gouvernement et de l'armée israélienne dans tous ces massacres, il est difficile d'être entendu, même s'ils publient des documents, s'ils critiquent des lettres qui sont un document pour l'histoire de leur résistance à eux aussi, ils n'ont pas d'influence. Et chez nous aussi en Europe, il y a des manifestations massives en Angleterre, à Genève, en Allemagne, en France, mais pour l'instant, elles n'ont pas encore d'effet pour convaincre les gouvernements qui sont sans doute trop loin de ces populations de Gaza, palestiniennes, qu'ils connaissent mal, n'ont pas d'empathie, de vraie empathie pour ça. Je voudrais signaler une fois une chose que j'ai découverte récemment, c'est que le plus proche conseiller du président Macron, sa mère était une Sabra, c'est-à-dire une juive née à Haïfa en 1932, de parents aussi présents comme juifs de la Palestine historique. Et en fait, donc, le narratif, ce qu'a raconté, ce qu'a entendu le Macron dans ses années, quand il avait 30 ans, quand il était au début de ses années 40 ans, et même pendant son premier mandat et son deuxième mandat, c'est surtout une histoire vue par les juifs de colonisateurs des années 30, qui eux considéraient qu'ils luttaient contre l'impérialisme britannique. Des gens ont osé dire ceci, que Israël n'est pas un État colonial, c'est un État anticolonial parce qu'il se luttait contre l'Empire britannique. Ceci est complètement une distorsion sémantique, une distorsion de l'histoire, parce que le peuple palestinien est là, avec une petite proportion de juifs qui étaient là depuis très longtemps aussi, mais c'était la majorité de la population, et le projet sioniste qui était représenté par Jabotinsky, dont le premier conseiller secrétaire était d'ailleurs le père de Netanyahou, et tous ces gens-là qui sont dans l'extrême droite du sionisme veulent poursuivre cette lubie, cette illusion de projet colonial, et au prix de massacres et tout ça. Aujourd'hui d'ailleurs, tout récemment, un premier dirigeant des services secrets israélien a démissionné parce qu'il y a C'est une toute petite fraction dans la population d'Israël qui se révolte contre cette politique-là, mais je pense que ce mouvement va grossir et qu'on devra, un jour, Netanyahou sera amené à démissionner et être amené devant les tribunaux de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, à la fois comme chef d'État et comme personne, et avec aussi ses comparses officiers.
Merci, Monsieur Cornu. Madame Midani, est-ce que, comme le dit Bernard Cornu, à votre avis, on pourrait vraiment être optimiste à ce qu'un jour des personnes comme Netanyahou soient condamnées à la justice, à la Cour pénale internationale, et qu'ils doivent répondre en fait un jour, qu'ils répondront un jour pour tous ces crimes perpétrés contre des milliers de Palestiniens?
Un jour, il devra répondre effectivement devant de ces crimes. Mais moi, j'avoue honnêtement, je ne crois plus beaucoup aux instances internationales parce que je vois qu'elles sont complètement incapables de bouger le petit doigt vis-à-vis des grands crimes qui sont perpétrés par. À la fois par les États-Unis et par Israël. Moi, je ne sépare pas les deux parce que de toute façon, cette guerre aussi, c'est la guerre des Américains. On l'a vu et ils continuent à alimenter en armes, en munitions et même c'est eux qui dirigent. Donc, en fait, tant que les États-Unis ont de la force, ces instances sont complètement paralysées par les vétos américains. On a vu même quand même l'Assemblée générale, elle est paralysée par le veto américain. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il est important de mener la procédure et d'aller jusqu'au bout, parce que ça, c'est pour l'histoire et pour la documentation des crimes. Mais un jour viendra, effectivement, lorsque la Palestine sera libérée et que les États-Unis seront obligés de se retirer et puis de retirer Israël de la région. Donc ça c'est pour le futur, mais aujourd'hui il faut que la résistance continue par tous ces moyens forts en fait, et que nous continuions à soutenir la résistance palestinienne par tous nos moyens, et il faut riposter cet état fantoche et voyou d'Israël par la force. D'ailleurs, à cette occasion, je prends cette liberté de dire bravo à l'État, à la République islamique d'Iran, qui a donné une belle claque aux Israéliens dans la riposte contre son agression en fait de l'ambassade iranienne. Cette riposte a été très importante pour moi. Je pense que pour beaucoup de monde, elle est très importante pour mettre le holà, mettre vraiment les lignes à ne pas dépasser, et puis menacer ce pouvoir qui est complètement au-dessus des lois, comme quoi il aura pas seulement une riposte, mais une grosse claque. Et ça ira plus loin s'il continue dans ses agressions, en fait. Donc ça, c'est très, très important. Puis je voudrais aussi saluer toutes les forces de la résistance, de l'axe de la résistance, donc aussi la résistance yéménite qui assène des coups importants et à l'économie. Et puis malheureusement, elle en prend aussi de la part des Américains, des Britanniques, par les bombardements. Elle résiste aussi, et la résistance irakienne, la résistance libanaise, l'État syrien qui continue aussi à résister, à asséner des coups là où il peut. Donc aujourd'hui, que l'axe de la résistance qui est très actif aux côtés des Palestiniens et qui soutient cette résistance absolument héroïque et légendaire, je dirais, il faut le dire, pas seulement de la résistance palestinienne, des forces de la résistance, mais aussi du peuple qui est vraiment reçoit les pires coups de la part des Israéliens et les pires exactions. Et en plus, quand on voit le chiffre, 34 000 morts, sans parler de ceux qui sont restés sous les décombres, en 7 mois, ça dépasse en fait des guerres internationales qui durent pendant des années. Donc là aussi, le peuple palestinien, il endure, il tient, il résiste, hein, et je crois qu'il est déterminé de toute manière, et toute la région est déterminée à ce que les Américains quittent cette région, à ce que cet État intrus d'Israël qui a été planté par les forces britanniques, américaines et françaises dans la région pour qu'ils continuent à pomper les richesses de cette région, ben, jusqu'au jour-là, il est sur sa fin. J'ose espérer qu'il va disparaître rapidement et que la libération de la Palestine est très proche.
Inch'Allah, on l'espère aussi. Bernard Cornu, vous, comment voyez-vous la perspective des choses? On a 2 minutes devant nous, s'il vous plaît.
Bah, c'est une conjonction de cette résistance populaire dans les pays européens et aux États-Unis contre ces politiques de complicité avec l'État israélien, agresseur, occupant, terroriste, et la conjonction des actions juridiques à la fois à la Cour internationale de justice, qui a été claire, qui a été précise pour dénoncer tous les crimes et faire un avertissement sur les mesures conservatoires exigées qui ne sont pas encore appliquées, et par l'État israélien et aussi par la Cour pénale internationale, dont on a dit récemment qu'elle s'apprêtait sans doute à lancer un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou.
Oui. Merci infiniment. Alors, Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue, Aïssar Midani, analyste des questions internationales, était avec nous pour cette émission. Et nous avons évoqué les crimes perpétrés par l'armée israélienne contre le peuple palestinien, mais surtout la révélation de la fosse commune à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
La seule façon viable de rétablir la paix et la sécurité dans la région est que le Conseil de sécurité force le régime voyou israélien à mettre immédiatement fin à sa guerre génocidaire à Gaza, à mettre en place un cessez-le-feu immédiat et permanent et à arrêter ses activités déstabilisatrices dans la région, a déclaré jeudi l'ambassadeur et le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Amir Saïd Iravani, ambassadeur permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, s'exprimait lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation au Moyen-Orient et en Syrie. Il a déclaré que la situation humanitaire en Syrie restait désastreuse et le peuple syrien souffre de graves difficultés économiques, a-t-il averti. Selon le dernier rapport de l'ONU, 16,7 millions de personnes, soit près de 70% de la population syrienne, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Notons que le niveau du budget actuel alloué pour faire face à la crise humanitaire en Syrie est inquiétant, Iravani a ajouté. Le rapport de l'ONU souligne qu'un total de 4,7 milliards de dollars est nécessaire pour la mise en œuvre complète du plan humanitaire en Syrie. Son montant est nécessaire pour répondre aux besoins immédiats de 10,8 millions de personnes vulnérables parmi ces 16,7 millions de personnes. Le haut diplomate iranien a qualifié de primordial la fourniture d'une aide immédiate, rappelant toutefois qu'elle ne constituait pas une solution durable à long terme. Les efforts doivent porter sur la reconstruction des infrastructures essentielles, sur le retour en toute sécurité des réfugiés et des personnes déplacées et sur le processus politique, a-t-il expliqué. Selon l'ambassadeur iranien, malheureusement, les États-Unis et leurs alliés ont décidé de fermer les yeux sur la situation humanitaire et de poursuivre leur agenda politique en Syrie. Ils utilisent les sanctions comme un outil pour atteindre des objectifs qu'ils ont échoué à atteindre par la voie militaire ou diplomatique. Et de poursuivre. En outre, ils ont entrepris des efforts sournois, notamment en politisant l'aide humanitaire et en bloquant le retour des réfugiés. De telles actions illégales ne peuvent que contribuer à prolonger la crise et à aggraver les souffrances du peuple syrien. Réitérant que la République islamique d'Iran exige l'annulation immédiate des sanctions unilatérales, Iravani a ajouté « La persistance de telles actions inhumaines viole les droits humains fondamentaux du peuple syrien, punit l'ensemble de la population syrienne et aggrave la situation des couches les plus vulnérables de la société. » Il a également noté que la République islamique d'Iran appréciait le gouvernement syrien pour sa coopération avec les Nations unies et d'autres organisations internationales qui facilitent et fournissent les moyens nécessaires au secours et à l'assistance aux zones touchées par la crise. Et l'acheminement de l'aide doit se faire en coopération avec le gouvernement syrien dans le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, a-t-il ajouté. Le représentant iranien auprès des Nations unies a ensuite condamné une fois de plus les attentats terroristes lâches perpétrés le 1er avril 2024 par le régime israélien contre les bâtiments diplomatiques iraniens à Damas. Le régime israélien a clairement violé la Charte des Nations unies, en particulier l'article 2 de la Charte de l'ONU, les lois internationales, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République arabe syrienne. Cette violation flagrante constitue également une violation de l'immunité des représentants et des locaux diplomatiques et consulaires. Et de poursuivre, nous condamnons également fermement les actions agressives du régime terroriste d'Israël contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République arabe syrienne qui se poursuivent en toute impunité et sans aucune réaction de la part du Conseil de sécurité. Iravani a réaffirmé que la République islamique d'Iran est engagée à résoudre cette crise par une solution politique. L'Iran appuie le processus politique facilité par l'ONU afin de reprendre les réunions du comité constitutionnel, a indiqué son représentant, soulignant aussi la nécessité de lutter contre les groupes terroristes et de protéger les civils. Nous continuons de soutenir les efforts de l'envoyé spécial Geir Pedersen pour reprendre les réunions du comité constitutionnel en tant que mécanisme efficace pour faire avancer le processus politique, a souligné le haut diplomate iranien. Selon le représentant iranien, la restauration de l'intégrité territoriale de la Syrie nécessite des efforts continus pour lutter contre tous les groupes terroristes. Dans ce contexte, la République islamique d'Iran soutient et aide pleinement le gouvernement syrien dans ses efforts antiterroristes. Il a toutefois rappelé qu'il serait nécessaire d'accorder une attention particulière à la protection des civils dans le cadre des efforts de lutte contre le terrorisme. La République islamique d'Iran réitère une fois de plus sa demande de retrait immédiat de toutes les forces militaires américaines de Syrie qui ont occupé certaines parties du territoire de ce pays, a déclaré l'ambassadeur iranien. Selon lui, la présence illégale continue des forces américaines en Syrie viole non seulement la souveraineté et le territoire de la Syrie, mais constitue également la principale source d'instabilité et d'insécurité dans ce pays et permet aux groupes terroristes de consolider leur présence et de continuer de perpétrer des atrocités. Dans le cadre du format d'Astana, l'Iran œuvre à la normalisation et à une solution durable en Syrie, a fait valoir le responsable iranien. Il est également très important de déployer tous les efforts possibles pour faciliter le retour sûr et digne des réfugiés syriens dans leur pays et pour répondre à leurs besoins humanitaires, a ajouté M. Iravani. Pour l'ambassadeur iranien à l'ONU, la seule façon viable de restaurer la paix et la sécurité dans la région est de contraindre le régime voyou israélien à mettre fin immédiatement à sa guerre génocidaire à Gaza, à établir un cessez-le-feu immédiat et permanent et à arrêter ses activités déstabilisatrices dans la région.
Thank you.